Bonjour Sandra, ça fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Je pense qu'on peut aussi se réjouir particulièrement pour Oreb qui s'est fait opérer mardi et qui voilà, est encore à l'hôpital en convalescence. Hein. Mais voilà, apparemment, ça, tout va bien. Donc Patrick, merci pour les nouvelles aussi au cours de la semaine. Il est joignable à distance, mais avec le protocole, il n'y a qu'une personne par jour qui peut aller le voir. Donc voilà. Juste pour information, j'ai une petite tumeur à l'oreille ici. Le chirurgien va devoir enlever ça. Vous pouvez regarder mon oreille. Peut-être que ce n'est pas la dernière fois que vous la verrez, j'espère. Normalement, ils enlèvent juste un petit peu de peau dessus. Si vous me voyez revenir avec un bonnet, c'est peut-être... Non, je plaisante. Je voulais vous proposer de manière très simple de voir ensemble, si vous connaissez bien, votre ABC de Noël ce matin. Alors, pour illustrer ça, tout d'abord, j'aimerais faire référence à une photo que vous avez peut-être vue circuler dans les news de ces derniers jours. Est-ce que vous avez entendu parler des points d'invincibilité qui sont proposés aux habitants de plusieurs villes en Ukraine? C'est des espèces de grandes tentes marabouts qui sont chauffées et dans lesquelles il y a de l'électricité grâce à des générateurs. Et tous les habitants peuvent venir passer quelques temps dans ces tentes pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir boire quelque chose de chaud, recharger leur téléphone, bref, avoir un petit peu d'humanité et de sociabilité dans des villes où il n'y a plus de chauffage, plus d'eau courante en plein hiver. Et vous pouvez imaginer que ça fait du bien, ça fait du bien aux gens. Ces points d'invincibilité, qui sont nommés ainsi par le gouvernement ukrainien, sont aussi appelés des points de résilience. D'ailleurs, Kiev va dresser un grand sapin de Noël au milieu de la ville. Parce que les autorités ont dit, c'est pas parce que c'est la guerre qu'on doit nous voler Noël. Et vous savez comment ce sapin va s'appeler? Le sapin de la résilience. Et il y a des affiches dans tout le pays pour encourager les gens à être résilients. Je crois que le parallèle pour nous, c'est que Noël, quelque part, peut être aussi pour nous un lieu de résilience. Pour des raisons que je vais vous expliquer, parce que on le comprend bien, quand on, on pense aux enfants, quand on veut leur raconter Noël, il y a plein de livres qui existent, plus simples ou plus compliqués, mais c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir raconter la naissance du Christ et le Sauveur qui vient sur Terre. C'est une histoire qui est vraiment marquante et touchante. D'ailleurs, à la maison, Nathéo, la semaine dernière, a reçu un petit calendrier de l'Avent, et c'est des petits volets qu'on ouvre jour après jour. Le 2 décembre, chaque fois c'est un petit défi, et le 2 décembre, le défi c'était raconter l'histoire de Noël à tes parents. Il a réussi à me la raconter, je vous la fais texto. C'est le petit bébé qui naît dans la crèche, et puis les parents ils sont contents et c'est la fête. Alors, pour 4 ans, c'est pas mal. Et puis l'histoire d'après, il a écouté une histoire du Père Noël, etc. C'est pas évident de raconter en fait Noël dans la pureté de l'histoire à un enfant sans que tout se mélange avec la culture environnante et puis tout ce qu'on entend par ailleurs dans cette période. Alors, on va quand même faire une petite vérification, hein, si vous êtes au point sur votre ABC de Noël. Alors, si on prend par exemple A, dans l'histoire de Noël, ce serait quoi? A comme l'âne. Voilà, merci. Merci Guy. Il n'y a pas d'âne dans l'histoire textuelle. Comme les anges, par exemple. Ça marche. Bon, si vous dites un âne, c'est pas très grave, parce qu'on peut imaginer que comme c'était une naissance dans une étable, ça passe. Si on prend B comme bœuf, pareil, il n'y a pas de bœuf dans... B comme bûche, alors non, si. B comme berger, qui ont été prévenus de la naissance de Jésus et qui sont venus le voir. Bethléem, comme la ville où il est né. Ah, vous êtes super forts. Et si on prend le C comme cadeau, ça marche pas non plus. C'est comme chocolat, ouais. C'est comme crèche, ça marche. Alors les cadeaux des mages, ça pourrait aussi marcher. D comme Dieu, ça passe à tous les coups. D comme les dons des mages, on est d'accord. E comme, ah ouais, bien sûr. E comme étoile, l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à l'étable de Bethléem. Alors, je veux pas aller jusqu'au bout de l'alphabet, parce que de toute façon, à W, X, Y, Z, on serait en difficulté. Mais c'est bien pour les enfants de connaître l'histoire de Noël, dans sa simplicité et dans son authenticité. C'est bien aussi pour nous de connaître notre ABC de Noël. Et j'aimerais vous montrer à quel point cette histoire de Noël peut être pour nous un lieu comme une tente chauffée avec du café, avec de quoi charger nos portables, un lieu où on peut recharger nos batteries. Le verset le plus touchant et le plus, descriptif de ce qu'il s'est passé à Noël et qui inspire notre tradition aujourd'hui, c'est Luc 2, 6, 7. Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Description touchante, parce que là, on a ce contraste incroyable de la naissance du Messie, mais qui arrive vraiment comme la dernière roue du carrosse. Les parents sont en voyage, naissance en catastrophe, dans une étable parce qu'il n'y a plus de place à l'hôtel. C'est une arrivée surprenante pour un sauveur, pour un roi, pour un grand prêtre. Alors, je voulais ce matin vous proposer de réfléchir à une phrase qui illustre bien ce contraste entre l'arrivée d'un sauveur, d'un roi, et cette naissance anonyme, anodine, dans une étable. Et comme on est en train de parcourir 2 Corinthiens depuis quelque temps et qu'on va poursuivre l'année prochaine, je vous propose de s'arrêter sur ce verset 9 du chapitre 8 de 2 Corinthiens. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Voilà, dans cette phrase résumée, l'ABC de Noël. A comme il était riche. Dans cette histoire de... Excuse-moi, je bois un coup. Et je continue. Ce que je me disais que Jérémy était parti faire le ravitaillement. Merci Jérémy. Il se trouve que dans l'été, le journal Le Monde publie des séries sur des thématiques variées. L'été dernier, c'était sur des grandes familles fortunées françaises. La famille Bettencourt, la famille Bolloré, Lagardère, les Mulliez, etc. Passionnant de voir comment ces fortunes se sont faites et puis comment elles sont ensuite transmises aux enfants. Alors, après avoir lu attentivement chacun de ces articles, j'en suis venu à 2 conclusions. La première, c'est que je ne fais pas partie de la liste. Et la deuxième, c'est que je ne connais personnellement personne qui en fait partie. Mais si c'est votre cas, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. Je serai content de les rencontrer. Il y a des personnes évidemment extrêmement riches sur cette terre, des milliardaires. Il y a 4 catégories de gens très riches. Il y a le riche de base qui a beaucoup d'argent, mais qui a plus d'argent que vous et moi. Il y a le riche moyen, qui sont des multimillionnaires. Il y a le super riche, qu'on voit à la télévision, qui est plébiscité par les médias. Il y a ensuite celui qui est encore au-dessus de cela, la première classe. Pour l'illustrer autrement, le riche de base, quand il voyage en avion, il voyage en première classe. Le riche moyen, il voyage dans un jet privé. Le super riche, lui, bah, il possède le jet. Et celui qui est très très riche, bah, lui, il a carrément une compagnie d'avions qui lui appartient. Mais Jésus-Christ, lui, possède le ciel. Et c'est cela qui est intéressant dans cette référence au fait qu'il était riche. C'est qu'on ne peut pas comparer Jésus à aucune fortune sur cette terre. C'est simplement une illustration pour nous faire comprendre à quel point Jésus était riche. Quand la Bible dit que Jésus était riche, ça veut dire qu'il avait une richesse qui était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et on trouve plein d'illustrations de référence à cette richesse. Par exemple, dans Hébreux 1.3, on apprend que toute la gloire de Dieu rayonne lorsqu'on voit Jésus. Littéralement, il est le reflet de la personne de Dieu. Dans Jean 17.5, Jésus dit « Maintenant, Père, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Toutes choses ont été créées par lui, nous dit Jean 1.3. Et dans Colossiens 1.17, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Et on pourrait comme cela multiplier des citations de caractéristiques de cette richesse incroyable que Dieu, que Christ a. Mais ce qui est frappant dans ce que je vous ai lu, c'est qu'il y a une insistance très claire sur le fait que c'est une richesse que Christ avait avant même de venir sur terre, avant même de naître à Bethléem. Et tout au long de la Bible, on découvre comme cela, à la fois dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament, des noms et des caractéristiques de Christ. Je vous donne un exemple dans Ésaïe 9.5. On peut lire « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Donc Ésaïe, on est dans l'Ancien Testament, hein, c'est une annonce de ce qui va se passer à Bethléem. « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et si on continue, on peut trouver d'autres noms de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le maître. Il est la lumière du monde, le pain de vie, l'eau de vie. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est les fameux « je suis » de l'évangile de Jean, sur lequel on s'était arrêté il y a 3 ans. Il est la résurrection et la vie. Il est la pierre d'angle. Il est le capitaine de notre salut. Il est l'auteur de notre foi. Il est le fidèle. Il est le vrai témoin, le lion de la tribu de Juda. Il est l'agneau immolé, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous sentez les batteries qui se rechargent? Moi, en préparant ça, c'est l'effet que ça m'a fait. J'ai l'impression d'être dans cette tente chauffée où tout d'un coup, je me branche et je pense à ce que Christ est et à cette réalité qu'il est de toute éternité. Pourquoi est-ce que dire cela est essentiel? En théologie, il y a un terme qui est employé et qui est un point de doctrine fondamental. On parle de la préexistence de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la naissance de ce bébé à Bethléem de manière anodine, certes, c'est la venue de Dieu sur terre et l'incarnation de Jésus sur terre, mais Jésus existait déjà avant. Ce n'est pas le début de sa vie et de son existence à Bethléem. Ce qui veut dire que Christ préexistait avant sa naissance sur terre. Et il était dans la présence de Dieu et il était déjà celui en mesure, déjà le super riche en mesure de venir à notre secours. Ça, c'est le A de cet ABC de Noël. Jésus était riche de toute éternité. Deuxième réalité, le B, parce qu'il s'est fait pauvre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il était riche de toute éternité, mais il s'est fait pauvre désormais dans un temps fini, le temps de la terre. Déjà, ça, c'est une perte de richesse incroyable, passer de l'éternité à la limite temporelle qui est la nôtre. Il a quitté le ciel. Il a quitté le ciel pour venir dans un village reculé, Bethléem, dans une province oubliée, dans un peuple qui était méprisé déjà à l'époque. Les Juifs hein, de la période de Jésus, en fait, sont des exilés qui sont revenus d'exil dans les deux siècles qui ont précédé. Ils sont dominés par les Romains, qui eux sont les vrais maîtres du monde. Et puis une naissance voilà, dans cette étable. On nous dit même qu'il a dû porter des langes, des couches. Hein. C'est vraiment... Là, on peut voir à quel point il s'est fait pauvre. Il s'est placé en situation de dépendance en arrivant comme un enfant. Mais il y a un détail qui est clé dans cette phrase. Vous voyez ce qui est marqué ? Il s'est fait pauvre. C'est pas « il a été fait pauvre ». On est dans l'actif, c'est pas du passif. C'est-à-dire que c'est Christ lui-même qui a choisi de se faire pauvre. Et ça, c'est essentiel. On retrouve cette même idée dans Philippiens 2, 5 et 6. Voilà ce que nous dit Paul dans Philippiens 2, 6. « Christ, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Là encore, on retrouve cette expression « il s'est dépouillé lui-même ». Ça peut nous arriver de faire des mauvais choix dans notre vie et puis de perdre de l'argent et de devenir pauvre par les circonstances ou pour des raisons de santé, etc. Mais là, c'est lui volontairement et de manière complètement contre-intuitive et à rebours de ce que chaque être humain souhaiterait, c'est lui qui volontairement a choisi de devenir pauvre. Et cela, c'est quelque chose qui peut nous dépasser, et pourtant, c'est l'Évangile. La personne la plus riche de l'univers, celui qui possède même le ciel, est devenu plus pauvre que le pauvre. La preuve, c'est que Jésus ne possédait rien, pas de maison, à part ses habits, il n'avait rien à lui de personnel. Là encore, il y a un mot en théologie que l'on emploie pour expliquer que Jésus s'est fait pauvre, c'est bien sûr le terme d'incarnation. Jésus s'est fait homme, s'est fait chair pour venir habiter parmi nous. Comme Jean le dit au chapitre 1, verset 14, la parole s'est fait chair et est venue demeurer parmi nous. Jésus a quitté la gloire du ciel pour venir sur la terre et pouvoir vivre une vie comme n'importe quel être humain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous savons qu'il sait ce que nous traversons, et il sait tout ce que nous vivons et les émotions que nous pouvons connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'il s'est fait pauvre ? Il a quitté la gloire du ciel pour la tristesse et les difficultés de la terre. Il a accepté de passer par les étapes de la dépendance de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il a accepté de passer aussi par la difficulté de la formation, puisqu'il était charpentier, comme Joseph. Il a accepté aussi d'être confronté au rejet, au ridicule, de ne pas répondre au mal par le mal. Il a accepté d'être considéré et de connaître la douleur aussi et la souffrance. Et alors qu'il avait seulement 30 ans, il a eu 3 ans de ministère, très rapide, avant d'être crucifié, et c'était terminé. D'ailleurs, je parlais d'avion tout à l'heure, mais Jésus, il n'a jamais été à plus de 200 km de là où il est né. Hein. Ses déplacements étaient extrêmement limités, et pourtant, ça n'a pas empêché de devenir le sauveur du monde entier. Vous voyez, c'est contre-intuitif. Jésus n'a pas toutes les caractéristiques qui devraient accompagner quelqu'un qui vient pour sauver le monde. Il n'avait rien, nous dit d'ailleurs le texte, pour attirer les regards. Et pourtant, dans son enfance, il a agacé un roi, Hérode, qui a voulu l'éliminer. Dans son enfance, il a étonné les docteurs de la loi à 12 ans, lorsqu'il leur a expliqué comment fonctionnaient les Écritures. Dans l'âge adulte, il a marché sur l'eau comme si c'était le sol dur. Et puis, il a même dit à la mer de redevenir calme après dans une tempête. Il a guéri des multitudes de personnes sans médecin, sans médicament, sans être médecin, sans médicament. Et même, il a réussi à donner à manger à des milliers de personnes alors qu'il n'était pas cuisinier. Mais alors qu'il commençait son ministère itinérant de prédication et de partage de l'Évangile, eh bien, il a connu l'opposition et une opinion publique qui s'est retournée contre lui, à tel point que même au moment où il avait le plus besoin d'être soutenu par ses amis, ils lui ont tourné le dos et ses disciples l'ont laissé tomber, jusque Pierre qui l'a même renié. Ça, c'est à quel point il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre jusqu'à aller sur la croix, être crucifié, et puis expirer dans la souffrance pour que nous puissions être sauvés. Et on sent à quel point ce « il s'est fait pauvre » contient en trois mots ce résumé incroyable de l'amour de Christ pour nous. Voilà que celui qui était le plus riche, qui possède le ciel même, est venu sur terre et il s'est fait plus que pauvre pour que nous puissions comprendre qu'il nous aime et qu'il souhaite que nous ayons une vie différente. Alors, ça c'est le B. Et on peut maintenant passer pour terminer au C. Afin que vous soyez enrichis. Christ était riche, c'est le A. B, il s'est fait pauvre. C, pour que vous soyez enrichis. Ce qui est incroyable, c'est que Christ n'est pas venu sur terre pour s'enrichir, pour devenir le puissant, pour être celui qui pouvait remettre de l'ordre dans le monde entier. Non, il est venu sur terre pour nous prouver son amour éternel et pour nous donner la vie en abondance. Vous connaissez ce verset de Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que cette vie en abondance? Qu'est-ce que ça veut dire que qu'être enrichi par Christ? Eh bien, la liste est longue, mais tout ce que Christ me propose dans cette vie en abondance, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui, de pouvoir faire partie de sa famille en m'adoptant, en me faisant devenir enfant de Dieu, en me proposant d'être habité par le Saint-Esprit et par lequel je puis être rempli de joie et rempli d'une espérance vivante et sûre. Comme on l'a vu dans 2 Corinthiens 5 il y a 15 jours, nous pouvons désormais marcher non plus par la vue, mais par la foi, parce que nous avons une espérance et nous avons l'espoir de pouvoir vivre avec Christ pour l'éternité. Mais pour obtenir cela, comment faire? Comment devenir riche de cette richesse que Christ nous propose, de cette richesse qui vient donner un sens à notre vie, au-delà de simplement se lever le matin, partir au travail, revenir le soir, dormir et recommencer la même chose le lendemain? Quel est l'espoir que Christ nous propose? C'est un espoir incroyable, mais qui n'est pas accessible pour nous. Comment est-ce que je peux devenir riche de cette richesse que Christ me propose? Mais je ne peux pas, en fait. C'est pas possible. Est-ce que c'est parce que je viens ici tous les dimanches Est-ce que c'est parce que je prie le matin en me réveillant? Je prie le soir en m'endormant? Est-ce que c'est parce que je coche toutes les bonnes cases de ce que c'est être un bon chrétien avec une morale extraordinaire? Ça, ça ne marche pas. Non, il n'y a qu'une seule solution. Et ça nous est expliqué dans le début de ce verset. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il nous offre cette richesse gratuitement. Parce que le prix à payer pour que nous puissions l'obtenir, c'est qu'il était riche et il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. C'est lui qui nous donne la possibilité de devenir riche. Mais pour cela, il y a une condition, c'est de réaliser que je suis pauvre et que je ne peux pas accéder à cette richesse. Pauvre, pourquoi ? Parce que, naturellement, je vis une vie sans Dieu et sans espérance. Parce que je suis naturellement en guerre contre Dieu. Parce que je suis naturellement indifférent vis-à-vis de Dieu. Parce que je suis naturellement sans relation avec Dieu, ou alors prompte à lui parler et pas prompte à l'écouter. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris l'idée. Comment devenir riche par moi-même, c'est impossible, si ce n'est de reconnaître que je suis pauvre et qu'il n'y a que Christ qui peut me rendre riche. Vous savez comment les théologiens appellent cette réalité ? Cela s'appelle l'imputation. L'idée que par la grâce de Christ, ce qu'il a fait m'est accordé sans que je le mérite. Ça s'appelle l'imputation. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il a pris mes péchés, il m'a donné sa justice. Ce n'est pas moi qui le mérite, c'est lui qui m'a accordé cela, c'est ça l'imputation. Alors, si je reviens à ma photo de départ, pour résumer ce que je viens d'expliquer sur l'ABC de Noël, de la même manière que la population ukrainienne a besoin de ces points de résilience pour pouvoir garder espoir et trouver des moments de réconfort dans leurs journées compliquées. Eh bien, nous aussi, nous souvenir de l'ABC de Noël, c'est une manière aussi de regarder à Christ et de réaliser à quel point il est merveilleux et il nous donne la vie en abondance. Pourquoi ? Parce que Christ était riche, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il était riche parce que Christ existe de toute éternité et il a quitté la gloire de son Père volontairement pour venir sur la terre. Il s'est fait pauvre parce qu'il a choisi lui-même l'incarnation en venant habiter sur terre. Et enfin, il nous enrichit parce que, non pas à cause de ce que nous faisons, mais grâce à ce qu'il a fait, grâce à l'imputation de ses actions à notre bénéfice, nous pouvons être enrichis. Et nous pouvons désormais avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je vous propose une prière pour terminer, que je vais dire lentement. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la répéter dans votre cœur. Et je conclurai ainsi. Seigneur Jésus, merci pour les miracles que tu as faits. Ce miracle incroyable d'avoir quitté la gloire de ton Père, la gloire du ciel, pour venir sur la terre, pour devenir pauvre, pour que désormais tu sois en mesure, quand nous avons faim, de nous nourrir, quand nous avons soif, de nous donner à boire, et surtout de réaliser que, alors que nous sommes pauvres, sans espoir dans ce monde, tu peux nous rendre riches et nous donner une espérance. Merci pour la relation que je peux avoir avec toi, de pouvoir te parler, que tu me parles et de ce que tu donnes un sens à ma vie. Merci parce que en toi, lorsque je regarde à toi, c'est comme si je rentrais dans une de ces tentes d'invincibilité et où je peux trouver du réconfort, où je peux trouver une autre perspective sur ce que je vis et les difficultés que je rencontre, et aussi sur la raison pour laquelle je suis sur terre. Merci Seigneur Jésus de t'être fait pauvre pour moi, pour que je sois enrichi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.